Je vais d'abord vous parler effectivement de ce roman dont le titre déjà vous mettra en joie. Ça s'appelle « Beau sein, belle fesse ». C'est assez caractéristique de cet auteur qui, dans une certaine mesure, dans les années 90, dans une Chine qui commençait à s'ouvrir, fait entendre une voix complètement libre, complètement iconoclaste et franchement paillarde. Moyan, c'est un pseudonyme évidemment, qu'il a adopté parce que quand il était petit enfant, sa famille, ils étaient environnés d'un commissaire politique de climat de délation, lui disait surtout ne parle pas, ferme-la. Donc il a décidé de se nommer, c'est son nom de plume. Moyan, il est né en 55 dans une province rurale extrêmement pauvre, dans un village qui s'appelle Gaomi, un village qu'il décrit en disant que c'est le village des pires ivrognes et des meilleurs amants de la Chine. Et c'est dans ce village que Moyan va situer la plupart de ses livres autobiographiques. C'est à la fois un mélange d'épopées, de grands romans épiques, où il insuffle beaucoup de son autobiographie, mais il va également installer dans ce village, un peu comme a fait Faulkner ou bien Garcia Marquez, il va en faire le centre de la Chine. Des tas d'événements qui ne s'y sont pas passés vont se dérouler à Gaomi. Alors, Moyan est né dans une famille de paysans extrêmement pauvres. Il souffre énormément de la faim au moment, par exemple, du grand bond en avant qui va amener des centaines de milliers de paysans à la famine. Et d'ailleurs, son premier écrit, qui s'appelle « Le radis de cristal », il raconte le chagrin, la douleur d'un enfant qui, mourant de faim, va dérober dans un champ qui n'appartient pas à sa famille un radis. Et à partir de ça, va être traîné devant le chef du village et va être humilié publiquement devant tous les habitants. Et puis, il va être obligé d'arrêter l'école à l'âge de 14 ans. Il n'a jamais lu un livre de sa vie, quand par chance, il va intégrer l'armée un peu plus tard, quelques années plus tard, et là, il va tout apprendre, il va faire son instruction, il va découvrir les livres dans cette armée où il va continuer à travailler et pour laquelle, d'ailleurs, il gardera toute sa vie une certaine tendresse. Lorsque paraît son premier livre vraiment important après Le radis de cristal, ça s'appelle Le clan du sorgho, c'est un choc. C'est vraiment un choc en Chine. Parce que voilà un écrivain qui décrit une espèce d'épopée des paysans, le livre paraît dans les années 85, absolument pas conforme à la vision idéale du bon travailleur, soucieux de sa patrie, qui va sacrifier le bien-être de sa famille à l'intérêt de la communauté. Au contraire, ce sont des paysans assez paillards qui trafiquent le sorgho rouge, qui se fichent bien finalement de l'invasion japonaise, sauf que lorsque les Japonais arrivent et dévastent tout et violent leurs femmes. Donc il y a une espèce de vision comme ça extrêmement individualiste dans cette Chine communiste, et ça ne va pas lui valoir que des compliments. Et puis il va écrire la suite Le clan de sorgho rouge, dont d'ailleurs Zhang Yimou va faire un très très beau film. Il y a beaucoup de romans de Moyan qui vont être adaptés au cinéma. Et il va publier la suite, ça s'appelle Beau sein, belle fesse. Alors, Beau sein, belle fesse commence en 1938, en 39 en réalité, toujours dans ce village de Gaomi. Et les premières pages sont consacrées au très très difficile accouchement de la mère du narrateur. Elle a mis au monde déjà 7 filles, à la grande déception et à la grande colère de la belle famille qui est là, qui attend devant la porte, enfin que cette femme donne naissance à un fils. Avant lui, il y a eu 7 filles. Et toutes les filles ont reçu des noms chinois, dont la traduction française veut dire « réclame le petit frère »,« espère le petit frère »,« attend le petit frère ». Et là, miracle, la mère met enfin au monde, non pas seulement un garçon, mais une fille et un garçon. Et alors, évidemment, malheureusement, pour tout le village, pour la famille et pour l'enfant, sa naissance coïncide exactement avec l'invasion du village par les Japonais. C'est la guerre qui va se déclencher contre la Chine. Et nous assistons dans ces premières pages à des scènes de massacres, de viols. Toute la famille de l'enfant, Jit Dong, le père, la grand-mère, le grand-père vont être assassinés et tripés sous ses yeux. Mais enfin, lui, il s'en sort. Alors, le narrateur, qui est donc cet enfant Jintong, attendu vraiment comme le Messie, si je peux dire, par toute sa famille, est un personnage franchement écœurant. C'est-à-dire que c'est un enfant absolument pleutre, lâche, géniard, sans aucune force, comme d'ailleurs tous les autres membres mâles de cette famille. Et c'est un enfant d'une méchanceté inouïe envers ses sœurs, qui certes sont des filles quantité négligeable, mais ce qu'il leur reproche surtout, c'est de vouloir accaparer le sein de la mère. Or, les seins de la mère sont la propriété personnelle de Jintong, qui va tout au long de sa vie développer une obsession du sein maternel, qu'il va arrêter de téter d'ailleurs à l'âge de 9 ans seulement. Ensuite, quand il aura des relations avec des femmes, ce sera surtout pour leur téter les seins, ce qui est pour lui une jouissance beaucoup plus grande que de leur faire l'amour. Et pour finir, ce narrateur va être tout au long de sa vie entouré d'un tas d'événements cataclysmiques, parce que la force de ce livre, c'est que pendant que Jintong, le narrateur, nous raconte donc son obsession perpétuelle d'accaparer le sein de sa mère, tout autour, c'est une fresque qui s'étend sur 60 ans, il y a toutes les calamités possibles et imaginables qui s'abattent sur la Chine. Il y a l'invasion japonaise, il y a les maquisards qui chassent les Japonais mais qui se conduisent aussi mal, ensuite il y a la Seconde Guerre mondiale, il y a les Allemands, il y a les Américains qui délivrent la Chine, il y a le parti communiste qui se bat contre le Kuomintang, les guerres, etc. Et enfin, il y a toute la mise en place du système communiste avec la famine, le grand bond en avant et la révolution culturelle. Or, notre narrateur, ce qui est absolument formidable dans ce livre, c'est très, très imagé. Il n'arrête pas de nous raconter des scènes sanglantes avec un certain détachement, finalement. Les cadavres s'accumulent autour de lui et lui poursuit son obsession, les seins, les seins, les seins de ma mère. Et je voudrais à ce propos vous lire un passage assez réjouissant. Voilà, donc, nous sommes à peu près à 5-6 mois de la destruction totale de Gaomi, de la mort des membres de sa famille et le petit Jintong est sauf avec sa mère et ses 8 sœurs. Voilà ce qu'il écrit. Durant cet automne qui m'avait mise en rage, les seins de ma mère avaient été cruellement profanés et le pasteur Maroya s'était suicidé en se jetant du clocher. Mais les catastrophes ont toujours une fin et des seins aussi merveilleux ne pouvaient être perdus à jamais. Ils seraient éternellement jeunes, comme certains individus, verts et luxuriants, comme les grands pins. Lorsqu'elle voulait m'allaiter, ma mère, il lui suffisait de rentrer le ventre, de faire tourner le sac autour de sa taille, et je me retrouvais juste à la hauteur de ses seins. Je me mettais alors à genoux dans le sac et ma tête se pressait contre sa poitrine. Si je penchais la tête vers la droite, je tétais son sein gauche. Et si je penchais la tête vers la gauche, je tétais son sein droit. C'était le cas de le dire que je trouvais mon bonheur autant à gauche qu'à droite. Cependant, le sac, c'est le vêtement de sa mère, avait un défaut. Il emprisonnait mes mains, ce qui m'empêchait, comme j'avais pris l'habitude de le faire pendant que je tétais un sein, de protéger l'autre de la main. J'avais totalement ravi à ma 8e sœur le droit de téter et dès qu'elle s'approchait des seins de ma mère, je la griffais et la rouais de coups de pied, ne cessant de provoquer les pleurs de la petite aveugle. Désormais, elle vivait de bouillie et de riz, ce qui rendait furieuses mes grandes sœurs. Au cours de cet hiver long et rigoureux, les moments de tétée furent entachés d'un sentiment d'insécurité permanent, car chaque fois que ma bouche prenait le téton gauche, mon esprit se préoccupait du téton droit. Et j'avais toujours l'impression qu'une main couverte de duvet allait soudain pénétrer dans l'orifice rond et en extraire le sein provisoirement au repos. Tourmentée par cette pensée, je changeais sans cesse de téton. À peine avais-je asséché le sein gauche qu'aussitôt je me tournais vers le droit. Mais dès que les vannes de celui-ci étaient ouvertes, je déplaçais rapidement ma bouche vers la gauche. Surprise, ma mère m'observa et remarquant que pendant que je tétais le sein gauche, mes yeux guettaient à droite, elle devina mes pensées. Elle baisa mon visage de ses lèvres glacées et me chuchota à l'oreille « Jintong, mon trésor, le lait de maman est pour toi tout seul, personne d'autre ne peut le prendre. » Voilà, donc, au cours de ce roman fleuve, il y a à peu près 900 pages, nous assistons donc à l'histoire de cette famille qui va subir tous les contre-coups finalement de ce qui se passe en Chine, sauf que tout va se passer à Gaomi, comme d'habitude. C'est-à-dire que les huit sœurs vont chacune avoir un destin. Il y en a l'une qui va, par exemple, épouser le chef des maquisards contre les Japonais. Elle va s'en aller, ça ne va pas très bien se passer, elle va revenir au village. Il y en a une autre qui va devenir une voleuse, une autre que la mère, vraiment dans l'embarras, va être obligée de vendre comme prostituée, etc. Ce qui fait que nous voyons tous les différents plans historiques de la Chine, de toutes les époques, à travers les mariages malencontreux de ces filles qui toutes reviennent au village. Alors, il y a dans ce livre le personnage central, le personnage extraordinaire, c'est la mère. La mère est une boule d'énergie, une boule de force, comme toutes les femmes d'ailleurs de cette famille. C'est elle qui va prendre en charge tout ce destin, qui va lutter. Et elle est absolument magnifique, elle est rayonnante. On comprend finalement l'amour extraordinaire que porte Jin Tong à sa mère. Et je soupçonne Moyan d'avoir absolument idolâtré la sienne. Et cette femme va traverser toutes ces épreuves avec beaucoup de force. Et alors, ce qui est extraordinaire aussi, c'est qu'elle est absolument séduite, amoureuse du pasteur du village, un pasteur suédois qui s'appelle Maroya, qui est une espèce de grand rouquin avec des poils comme un bouc, et il pue le bouc d'ailleurs. Et la maman a une liaison adultère avec cet homme qui est en fait le véritable père de notre héros. Parce que les hommes de cette famille... Le mari de Lou Shangkong, qui n'avait su faire que des filles, est un piètre amant. Et en fait, la mère connaît des jouissances extraordinaires avec ce pasteur roux. Et ce qui est merveilleux dans ce livre, je voudrais parler du style. Alors, on a parlé de réalisme magique, comme chez Garcia Marquez. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Parce qu'en fait, c'est un livre, effectivement, qui se passe dans un village qui devient le microcosme, le centre du monde. Mais par ailleurs, c'est une écriture très simple, presque pragmatique, avec de temps en temps des envolées de fantastique ou de surnaturel, mais qui ne sont pas du fait de l'auteur. L'auteur se contente de rapporter les légendes qui assimilent encore la culture communiste chinoise, par exemple. Il nous raconte l'histoire d'un oiseau fait prisonnier par les Japonais et qui va survivre pendant 15 ans en Japon dans un arbre. Alors, toutes sortes de légendes comme ça qui viennent interférer sur la très, 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 très dure réalité que vivent ces personnages. Qu'est-ce que je pourrais vous dire encore? Je pourrais vous dire que c'est un livre...
Pardonnez-moi, Paula, je vous demanderai... Excusez-moi, désolé de vous couper.
J'étais trop longue.
Non, pas du tout. Quelques instants peut-être de conclusion et puis on s'arrêtera d'accord. Si ça vous ennuie
okay,
pas.
Ok, je vais m'arrêter. Je voulais simplement vous lire parce que je ne résiste pas à l'envie de vous lire ça. Donc, comme je vous le disais, le livre s'ouvre sur le douloureux accouchement de Jin Tong et se termine par sa conception. Parce que le génie de Moyan aussi, c'est de ne pas tenir compte de la chronologie. Il y a de prodigieux bonds en avant dans son récit, des bonds en arrière. Donc voilà comment le livre s'achève. La mère, nous sommes en 1938, a été violée à plusieurs reprises. Son mari, cette espèce de petit mollusque, ne cesse de la battre. Il l'a brûlée entre les cuisses au feu rouge parce qu'elle n'engendre pas de fils. Et elle manque de mourir. Et elle court voir le fameux pasteur. Au début de l'été 1938, dans le bois serré de Sophora, des dunes où toute trace humaine était rare, le pasteur Maroya était pieusement à genoux mouillés à côté du corps en voie de guérison de ma mère et la caressait doucement de sa grande main rouge tremblante. Ses lèvres écarlates et humides remuaient. Ses yeux bleus, brillants et pétillants comme de l'eau, se confondaient avec le ciel d'un bleu profond du canton du nord-est de Gaomi, qui apparaissait entre les fleurs serrées des sophoras. Il murmurait sans cesse « Ma sœur, ma bonne épouse, ma colombe, ma femme accomplie. Tes cuisses sont douces et lisses comme le jade. Elles ont été sculptées par un habile artisan. Ton nombril est une tasse parfaite. » Pleine d'un alcool merveilleux, ta taille est un tas de blé sain de lys. Tes seins sont un couple de biches que leur mère a mis au monde ensemble. Tes seins sont les fruits qui pendent du palmier. Ton souffle a le parfum de la pomme. Ta bouche a le goût de l'alcool exquis. Je t'aime pour ta beauté, quelle joie. Tu procures un tel bonheur. Sous les compliments émouvants de Maroya, sous ses tendres caresses, ma mère sentit son corps s'envoler comme une plume de cygne, s'envoler dans le ciel d'un bleu profond du canton du nord-est de Gaomi, s'envoler dans les yeux d'un bleu profond du pasteur Maroya, tandis que le parfum entêtant des fleurs rouges et des fleurs blanches des sophoras déferlait en vagues impétueuses. Quand le sperme frais du pasteur Maroya fut projeté comme une flèche dans son utérus, des larmes de gratitude jaillirent dans ses yeux. Assailli de mille émotions, le couple d'amants au corps couvert d'anciennes cicatrices se mit à crier à pleine voix dans le parfum étouffant des fleurs de Sophora. « Emmanuel, Emmanuel, Alléluia, Alléluia, Amen, Amen. » C'est ainsi que se termine ce magnifique livre. Ce que je voudrais quand même vous dire quelque chose. Comment est-ce qu'un garçon mourant de faim, qui n'a pas fait d'études, qui est pratiquement analphabète, va devenir l'écrivain le plus populaire de Chine et pourquoi ? Alors j'ai eu la chance extraordinaire de le rencontrer quand il est venu à Paris, c'était je crois en 2004, 2 ans après avoir reçu le prix Nobel, et nous avons eu un entretien, bon, j'étais absolument éblouie. Évidemment j'ai posé la question, mais pourquoi avez-vous voulu devenir écrivain ? Il m'a répondu, c'est parce qu'un voisin m'avait dit qu'un écrivain, ça mangeait au moins 2 fois par jour des raviolis à la viande.